Alors nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer notre étude, notamment sur l'église locale. Des éléments qui vont ressortir pour pouvoir les appliquer à l'église locale. Okay, donc c'est dans ce cadre-là que cette étude est pratiquement menée. Aujourd'hui, nous voulons voir normalement les images qui représentent l'église dans la Bible. Mais avant cela, je voudrais qu'on puisse quand même faire un rappel de ce que nous avions étudié les deux dimanches derniers, pour cadrer cela et puis ensuite nous allons continuer. L'église locale, c'est l'assemblée locale des croyants. Et l'église locale est formée de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et l'église locale est le lieu où les membres se sanctifient par l'enseignement et l'obéissance de la parole. Et l'église locale aussi est le lieu où les membres découvrent leurs dons et leurs talents pour servir le Seigneur. Et l'église locale est le lieu où l'on pratique aussi, où les membres pratiquent la charité, les membres s'édifient ensemble et glorifient Dieu dans l'unité. Donc j'ai essayé de, on avait vu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de grandes choses, j'ai essayé de prendre quand même quelques éléments pour pouvoir nous rappeler effectivement ce que l'on peut avoir ou ce dont on peut bénéficier en tant que membre d'une église locale. Et dimanche dernier, nous avions vu la mission de l'église, j'ai mis de l'église locale. Donc la première mission, c'était le perfectionnement des saints. Donc en tant qu'église locale, on se met ensemble pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir grandir dans notre marche avec le Seigneur. La préservation de la vérité et le rôle de l'église locale, c'était ça, puisqu'on dit l'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Le rayonnement vers l'extérieur aussi, c'était l'une des missions de l'église locale, la proclamation de l'évangile, et nous avions été aussi exhortés comme membres de l'église locale à la repentance et au pardon. Donc le but de Dieu est d'utiliser l'église locale pour accomplir son œuvre. Donc l'église locale est un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir son œuvre, ses desseins, pour pouvoir aller de l'avant avec l'église locale. Aujourd'hui, nous voulons voir les images. Nous voulons voir aujourd'hui les images de l'église locale dans la Bible. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, diverses images sont utilisées pour représenter l'église. Et l'Écriture est la source de toutes ces images qui sont utilisées. Et ces images sont tirées des réalités et des habitudes quotidiennes. Donc, les images qui représentent l'église, ou qui sont utilisées pour représenter l'église, sont tirées de nos vies de tous les jours. Et ces images ne définissent pas l'Église, mais disent ce qu'est l'Église. Donc, lorsqu'une image est donnée ou est utilisée dans la Bible, l'image ne vient pas définir l'Église, mais l'image va nous donner l'idée que devait être l'Église. Et elles sont tirées, comme j'ai dit, de la vie pastorale, de la vie des champs, du travail, de la construction et de la famille. Donc, ensemble, on va lister un peu quelles sont les différentes images qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'images qui représentent l'Église. Moi, je vais donner un exemple pour que ce soit plus facile et puis, au fur et à mesure, chacun va pouvoir faire ressortir des éléments. Peut-être comme première image qui peut me venir à l'esprit, on va dire que l'Église, c'est le sel de la terre, par exemple. Donc, comme image, le sel est l'image qu'on va utiliser pour représenter, par exemple, l'Église. Est-ce que d'autres images vous viennent à l'esprit? L'Église est la lumière. L'Église est le corps de Christ, oui. L'Église est l'édifice, oui. Donc, on a la lumière, on a le sel, on a le corps, on a l'édifice. L'Église est le fondement. On va revenir là-dessus. Quoi d'autre encore? L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est une nation sainte, n'est-ce pas? Et puis, comme on l'a vu, l'Église, c'est la vérité, c'est la colonne de la vérité. Et il y a certains commentateurs qui relèvent jusqu'à 18 éléments qui représente l'Église, mais moi j'en ai relevé 9. Okay? Il y a certains qui vont s'imbriquer entre eux, donc je n'ai pas souhaité les séparer. Okay? C'est beau? Donc effectivement, quelques images qui représentent l'Église. Nous avons l'Église, c'est peuple de Dieu. L'Église, corps du Christ. L'Église, temple du Saint-Esprit. L'Église, maison de Dieu, ou édifice, si on veut dire. L'Église est le champ de Dieu. L'Église, épouse de l'agneau. L'Église, c'est le troupeau de Dieu. L'Église, c'est le sel de la terre. L'Église, c'est la lumière du monde. Donc voici toutes ces images, ou quelques images, puis je peux m'exprimer ainsi, qui représentent effectivement l'Église dans la parole de Dieu. Donc nous allons passer à ces images-là, une par une, pour voir effectivement quel enseignement on peut tirer pour nous-mêmes. C'est beau? Donc le premier point, c'est l'Église, peuple de Dieu. Donc on pourrait lire Éphésiens 2, 12, 14. J'ai mis plusieurs versets, mais on ne va pas les lire tous. À chaque image, on va juste lire un verset, et puis si on veut approfondir. Donc on avait vu à la première leçon donnée par notre frère Mauricio, effectivement, comment le mur de séparation avait été ôté par Jésus-Christ, afin que les nations ou les Grecs viennent se joindre aux Juifs, qui étaient le premier peuple de Dieu, que Dieu avait choisi pour qu'ensemble on puisse être une seule nation. Mais quand on voit l'idée de peuple de Dieu, déjà vient de Genèse. Hein. Genèse 12, à partir du verset 2, c'est Dieu qui parle. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc ici, on voit l'appel d'Abraham. Comment Dieu prend Abraham et d'Abraham, il fait un peuple. À partir d'Abraham, on a le peuple d'Israël, donc les Juifs. Et Jésus-Christ qui rentre en ligne de compte. Et quand Jésus rentre en ligne de compte, on nous dit dans Romains 1, verset 16, premièrement c'est pour les Juifs et après pour les Grecs. Et quand Jésus-Christ rentre en ligne de compte, non seulement les Juifs, mais aussi toutes les nations vont se mettre ensemble pour former le peuple de Dieu. Et lorsqu'on parle de peuple de Dieu, on dit tous ceux qui acceptent Jésus-Christ sont membres du peuple de Dieu. Dans l'expression peuple de Dieu ici, quels sont les éléments caractéristiques qui peuvent ressortir par rapport à nos relations avec Dieu? Quand on dit on est peuple de Dieu, qu'est-ce qui marque? Oui, on a fait de Jésus notre Seigneur. On est baptisé. Mais je veux qu'on regarde ça par rapport à Dieu dans le choix que lui fait. Est-ce que ce choix venait de nous? C'est une grâce. Donc déjà, on voit que l'initiative... Premier élément, l'initiative ne vient pas de nous. L'initiative vient de Dieu. Et puis quand on dit peuple de Dieu, ça montre notre appartenance à qui? À Jésus, à Dieu lui-même. Pour dire qu'on appartient donc à Dieu. Et donc c'est Dieu qui forme donc son Église, comme on le dit. Et puis l'Église est le peuple désiré de Dieu, parce que Dieu veut ça. Donc c'est le choix de Dieu. C'est l'initiative vient de Dieu. Dieu veut cela. Et puis... c'est Dieu qui forme son Église. Donc, lorsqu'on va parler de l'Église, peuple de Dieu, on doit pouvoir comprendre effectivement que nous sommes une nation qui appartient à Dieu. Amen. Le deuxième élément, c'est Église, corps de Christ, la deuxième image. L'Église, corps de Christ. On peut lire 1 Corinthiens 12, 12 à 30. Si vous voulez. 1 Corinthiens 12, 12 à 30, oui. Amen. Donc ici, l'Église, corps de Christ, lorsqu'on lit ce passage, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous marque dans ce passage? C'est ça. Donc l'interdépendance des organes du corps qui forment une unité. Et puis chaque membre a sa place. Donc chacun a un don. Certains vont, au lieu de don, certains vont préférer talent, mais des fois on va les utiliser de façon interchangeable. OK? Donc chacun a une capacité que Dieu met en lui pour l'édification du corps, de l'Église locale. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois, chacun a au moins un don. Et quand on ne sait pas quel est le don, des fois, on peut nous le dire. Ou on peut prendre conseil. Donc, pour dire que chacun a une capacité, chacun a un don que Dieu a mis en lui pour l'édification des autres membres du corps. Donc, quand on parle, le corps est un. Donc, ça parle de l'unité du corps. Donc, le bras ne peut pas dire « je suis bras, mais je vais faire la tête, je vais faire le pied, je vais faire l'œil. » Non, tu es bras, tu joues ton rôle en tant que bras pour être plus efficace. Quand tu es œil, tu joues ton rôle en tant que œil pour être plus efficace. Donc, ça sont les éléments qui ressortent. Mais comment l'Église est-il donc corps de Christ alors? Et Romains 12, verset 5, on parle de notre union à Christ par le salut. Donc, le salut que Dieu nous donne nous unit à Christ. Okay. Donc, par conséquent, on devient corps de Christ. Donc, Christ est la tête du corps qui est l'Église. Éphésiens 5, 23. Christ est la tête du corps qui est l'Église. Donc, c'est lui qui pilote, c'est lui qui coordonne toutes choses. Les membres vont exécuter les tâches que la tête va définir pour chacun de nous. Les membres du corps sont variés, mais dépendent les uns des autres, et surtout de la tête, qui est Christ. Et par le service que nous accomplissons, en prenant soin les uns des autres. Donc, ça c'est le rôle en tant que membre du corps qu'on doit pouvoir jouer. Donc, tous ces éléments-là font que, effectivement, l'Église est corps de Christ. Et comme nous l'avions dit, Dieu travaille avec son Église. Il travaille avec son Église locale. Donc, on ne peut pas dire, non, je suis membre de l'Église locale, mais bon, tout ce que l'Église fait, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est que ça ne marche pas. Donc, je suis membre de l'Église, donc j'ai un don que Dieu a mis en moi, alors je suis capable de servir. Donc, chacun de nous, ici ce matin, a un don que Dieu a mis en lui. Et dimanche dernier, on a eu l'exemple, c'est-à-dire, tandis que peut-être quelqu'un va exceller peut-être dans le nettoyage, peut-être un autre excelle peut-être dans le rangement, ou un autre va exceller ailleurs. Et puis on a eu cet appel-là de venir servir aussi au niveau du comptoir alimentaire. On a le comptoir vestimentaire, on a l'enseignement des enfants, on a l'enseignement même aux adultes aussi. Je veux dire qu'il y a plusieurs services, plusieurs départements là où on peut servir. On a l'évangélisation, on a l'administration. Il y a beaucoup de départements dans lesquels on peut servir. Donc, nous sommes interpellés, effectivement, à mettre nos dons ou nos talents au service de, je dirais pas des uns et des autres, mais au service de Dieu d'abord, et puis ensuite, on travaille les uns avec les autres. Amen. Et l'autre image qu'on a, c'est l'Église temple du Saint-Esprit. Oui, l'Église temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, la notion de temple vient de la relation de Dieu avec les enfants d'Israël. Et Exode 25, 8 à 9, on dit, Dieu demande un sanctuaire pour habiter au milieu de son peuple pendant la traversée du désert. Donc, on va voir qu'il va donner des instructions pour la construction du tabernacle et tout. Et ensuite, on a aussi l'exemple de la construction du temple par le roi Salomon. Et puis, on va voir la prière du roi Salomon, et ce qui me marquait dans cette prière-là, c'est-à-dire, il demandait au Seigneur toutes les fois qu'un enfant d'Israël viendrait dans le temple pour prier, que Dieu du haut de son ciel puisse l'exaucer. C'est-à-dire, s'il a péché, qu'il demande pardon, que Dieu ait pitié et qu'il agrée. Et autre, quand on lit la prière de Salomon, c'est vraiment impressionnant de voir effectivement. Donc là, on voit que le temple représente un lieu où on vient rencontrer Dieu. N'est-ce pas? Donc c'était le lieu où on rencontrait Dieu. C'était le lieu où on venait avec nos sacrifices, avec les sacrifices. Pour voir le souverain sacrificateur pour que nos péchés soient pardonnés. Hein? Le temple, c'est le lieu où on vient pour avoir de l'apaisement aussi, n'est-ce pas? Mais là, on ne parle plus du temple, dans ce qu'on vient de lire, on ne parle plus du temple construit, disons, par main d'homme, pratiquement, de l'édifice, mais on parle de nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Le temple aussi était un lieu de sanctification, un lieu de sainteté. Donc ici, on nous dit que l'Église est le temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Donc, la construction du temple de Jérusalem, j'ai noté par Salomon, le temple était un endroit de rencontre avec Dieu par l'intermédiaire du souverain sacrificateur, un endroit de divers sacrifices. Donc, l'Église locale réfère à l'habitation de Dieu en esprit, à l'habitation de Dieu en esprit. Parce que lorsqu'on parlait du temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire, Lorsque les enfants se réunissaient, les enfants d'Israël se réunissaient, on attendait la présence de Dieu. Donc Dieu était présent, mais en réalité, est-ce que Dieu avait besoin d'habiter dans un édifice? Non, Dieu n'a pas besoin d'habiter dans un édifice. Il est plus que l'édifice lui-même. OK? Mais il voulait juste la manifestation de sa présence. Donc on dit l'église locale réfère à l'habitation de Dieu en esprit. Par contre, regardons les deux aspects de cette habitation-là. Au sens personnel, chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Mais comment nous, en tant que chrétiens, on devient temple du Saint-Esprit? Comment on est temple du Saint-Esprit? Par la prière, on est temple du Saint-Esprit. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit habite en nous, en ce moment-là, on est le temple du Saint-Esprit. Alors, si on est le temple du Saint-Esprit, ce temple-là, on doit prendre soin de lui. Donc, de façon individuelle, chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de parler en langue pour être le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire des prophéties pour être le temple du Saint-Esprit. Pour recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, ou du moins pour recevoir l'Esprit de Dieu en nous, c'est accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. À partir de là, on a le don du Saint-Esprit. OK, d'accord. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ n'a pas le Saint-Esprit. Encore, voilà. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme son Sauveur. Quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, en ce moment, l'Esprit de Dieu habite en nous. Maintenant, oui, vas-y. Quand on va prendre l'Ancien Testament, on va voir effectivement qu'il y a des personnes qui avaient, je dirais, l'Esprit était donné de façon sporadique, et puis selon ce que Dieu voulait faire, Dieu voulait accomplir. Donc, certaines personnes allaient avoir l'Esprit de Dieu pour faire ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Maintenant, souvenons-nous à la promesse du Seigneur. On a dit Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. N'est-ce pas? Donc déjà là, on voit qu'il y a la promesse qui est faite déjà par le Seigneur. Mais avant cela même, Jésus avec ses disciples, je paraphrase un peu, il est important que lui s'en aille. Parce que tant qu'il ne va pas à l'Esprit de Dieu, ses disciples ne pouvaient pas bénéficier de l'Esprit de Dieu. Donc déjà là, on a la promesse du Saint-Esprit qui est faite. Donc à partir de la Pentecôte, on voit que les disciples reçoivent l'Esprit, le Saint-Esprit. Et donc partant de là, quand on accepte Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, il n'est plus donné comme autrefois de façon sporadique, comme le Seigneur choisissait, comme Dieu le faisait, pour donner à certaines personnes pour qu'ils puissent travailler. Mais maintenant, dès qu'on accepte Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Ça, c'est la première démarche. Maintenant, les différentes étapes, comme le frère l'a mentionné, ça va se faire, mais je veux dire, c'est des étapes sur lesquels on n'a pas de contrôle, on n'a pas de maîtrise nous-mêmes. Mais déjà, moi, quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je reçois l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on va dire, le don du Saint-Esprit, qui est différent des dons du Saint-Esprit dont le texte parle tantôt, don de prophétie, don des temps, don de tout. Ça, c'est qui est différent. Donc, c'est différent du... Le don du Saint-Esprit est donc différent des dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le don du Saint-Esprit, c'est la première marque de notre attachement au Seigneur ou de notre acceptation de Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Maintenant, pour revenir un peu à ce que la sœur disait, quand on va lire Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est pour nous aider effectivement dans notre marche, dans notre développement. Donc, l'Esprit de Dieu ici, quand on est rempli du Saint-Esprit, va nous aider à nous développer, va nous aider à travailler et autres. Voilà pourquoi là, ici, on est exhorté plutôt à être rempli du Saint-Esprit. Sinon, à la base, on a le Saint-Esprit quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, on voit ici, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, on a le Saint-Esprit. C'est bon? On a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'événements particuliers ou de manifestations particulières pour dire qu'on a le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas l'Esprit. Amen. Donc, pour celui qui est dehors, qui fait ses adorations mystiques, qui fait ses adorations quelconques, s'il n'a pas accepté Jésus-Christ, s'il ne s'est pas repenti, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, ça c'est au niveau, on a dit au sens individuel, c'est ça? Ok. Donc, au sens collectif, l'Église est le temple du Saint-Esprit. Et ça, j'étais en train d'imaginer un peu, je dis, bon, si on prend chacun qui est temple du Saint-Esprit, qu'on se met ensemble en tant que collectif, on devient donc temple du Saint-Esprit. Ça, c'est ma compréhension simple. C'est bon? Donc, l'Église, en tant que corps de Christ, en tant que membre, nous sommes, l'Église locale est le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire on doit pouvoir prendre soin de ce temple-là, okay? Qui nous représente nous-mêmes, au fait que nous représentons. Okay? Et la notion de temple de Dieu révèle l'habitation de Dieu. Donc, Dieu est dans son Église locale. Dieu est dans son Église locale. Et Dieu est dans ses membres, c'est-à-dire dans ses enfants. Et deuxièmement, l'adoration de Dieu. Donc, on a dit le temple était un lieu d'adoration, un lieu de rencontre avec Dieu. Donc, l'église locale. Quand je parle d'église locale, je ne vois plus les bâtiments. Hein. Je vois l'ensemble, chacun de nous associés qui formons le temple de Dieu. Amen. Donc, amener à apporter notre adoration à Dieu. Et puis, quand on parle de temple de Dieu, cela révèle aussi la consécration à Dieu. Donc, une église consacrée à Dieu. Donc, des membres, des corps consacrés à Dieu. Donc, c'est ça, nous, en tant qu'église, temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes temple du Saint-Esprit? Il faut qu'on soit convaincu de cela. Et puis, là, si on est convaincu de cela, cela nous donne effectivement la force de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. De rechercher la consécration. Parce que si au fond de moi, je dis, ah mais tiens, je suis le temple du Saint-Esprit, je ne vais pas chercher à détruire le temple du Saint-Esprit. Mais je vais chercher plutôt à honorer Dieu. Je vais chercher plutôt à me consacrer à Dieu. Et puis si ensemble, on se met d'un commun accord en tant qu'église locale pour pouvoir porter nos regards vers Dieu pour l'adorer, en ce moment, on voit comment Dieu peut agir dans nos vies. Amen. Et je pense que je suis à la quatrième image. La quatrième image, c'est Église, champ de Dieu. Église, champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Église, champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 6 à 9 qui dit, « J'ai planté Apollos, a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc, en tant qu'Église, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Donc ici, Paul adresse ici une situation de division au sein de l'Église de Corinthe. Paul a annoncé l'Évangile. Les gens sont venus, il encadre l'Église. Apollos aussi arrive, éloquent serviteur de Dieu. Donc, ça fait qu'au niveau de l'Église, on commence à avoir des clans. Ah, moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos. Ah non, Apollos, il est trop bon, trop éloquent. Ah, mais Paul, il est trop versé dans la parole. Et puis, au fur et à mesure, on voit qu'il y a des clans, il y a la division qui commence par naître. Alors, Paul va adresser cela pour dire non, nous sommes ouvriers, de simples ouvriers. Mais celui qui travaille, il est au-dessus de tout. Et c'est pour lui que tous nous travaillons. Donc, il montre ici que l'église locale est un mystère. On a travaillé et tout, mais il y a quelqu'un qui va faire croître la semence qui a été mise en terre. Il y a quelqu'un qui va faire croître l'église. Et donc, sa croissance et son développement dépendent entièrement de Dieu et non des ouvriers qui y travaillent. Et nous sommes le champ de Dieu et le plan principal auquel nous sommes attachés est le Christ. Par l'Église, nous demeurons en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Christ Jésus disait à ses disciples. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai cep. Et puis, nous sommes les sarments, nous sommes les branches, attachés, rattachés au cep. Et nous bénéficions donc de la sève de ce cèpe. L'Église est le champ de Dieu, c'est lui qui l'a fait croître. Donc, nous pouvons, je ne dirais pas nous pouvons, mais nous évangélisons. Nous faisons des programmes, nous planifions, nous travaillons dans le champ. Je dirais avec sueur, des fois certains avec larmes. Pensez à nos missionnaires à l'extérieur, dans des champs difficiles, ils le font. Mais malgré tous ces efforts, tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui fait croître son Église. Amen. C'est Dieu qui fait croître son Église. Et ici, Paul est en train d'interpeller l'Église locale pour dire que vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous est un plant dans ce champ de Dieu-là. En tant qu'individu, Dieu va nous faire croître. En tant que collectif, Dieu va nous faire croître, afin que nous allions aussi, en travaillant avec Dieu, aller annoncer sa parole, pour que Dieu attire. On dit souvent que c'est l'Esprit de Dieu qui attire les âmes. Mais, en tant qu'ouvrier, on a un rôle à jouer. Cela ne veut pas dire que, parce que c'est Dieu qui fait croître, nous, on n'a rien à faire. Parce qu'il y a cette option qui dit, oh bon, d'ailleurs, on ne sait pas, moi j'annonce et puis c'est Dieu qui touche les cœurs. Donc ça veut dire que ce n'est même pas nécessaire qu'on évangélise, ce n'est même pas nécessaire qu'on parle de Dieu aux gens. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qui va venir à lui, qui ne va pas venir à lui. Mais justement, c'est parce que nous, on ne sait pas qu'on doit annoncer. Pour que Dieu touche par sa parole ceux qui ont besoin, ceux qui sont en train de le chercher activement. Amen. Donc nous sommes le champ de Dieu. L'Église, édifice de Dieu ou maison de Dieu. Et on l'a vu dans le passage qu'on vient de lire, je pense au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et dans 1 Timothée 3, s'il vous plaît. La maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, certains commentateurs ont séparé, dans ce verset, ils ont pu faire ressortir l'image, la colonne qui est une image, et puis la vérité aussi qui est une image. Mais moi, je les ai mis tous dans l'édifice. Donc, ici, nous devons bâtir sur un fondement solide, n'est-ce pas? Parce que le fondement, il est déjà là, donc c'est sur ce fondement-là que nous voulons bâtir. Et Église, édifice de Dieu, implique que nous devons bâtir sur un fondement solide. L'image de l'édifice nous réfère à une construction où l'édifice a son importance et son rôle. Les murs de cet édifice sont constitués de pierres vivantes avec Christ comme la pierre, comme la principale de l'angle. Donc, Christ est la pierre angulaire, il est le fondement de l'Église et c'est sur ce fondement-là que l'on bâtit. Donc, en tant qu'édifice, maison de Dieu, ou quand on prend une construction, pour ceux qui sont bons dans la construction, on va voir effectivement qu'il y a plusieurs pierres, ceux qui utilisent les pierres, bien sûr, pour construire, il y a plusieurs pierres qu'on va agencer pour bâtir une maison, pour bâtir un édifice. Mais chaque pierre a son rôle, chaque pierre est... On va dire être une pierre vivante, une pierre qui a son rôle. Mais cette pierre qui a son rôle-là, elle est fondée sur, on parlerait d'une fondation, mais elle est bâtie sur un fondement qui est solide, et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Et quand on parle de pierre angulaire ici, généralement, lorsque les gens construisaient, la pierre angulaire, c'est la pierre qui va donner, je dirais, la direction des autres pierres. Donc, c'est à partir de cette pierre angulaire-là qu'on va, établir, ou on va agencer ou aligner les autres pierres. Donc, là, voilà pourquoi on dit Christ est la principale de l'angle. Donc, la pierre principale est posée, et à partir de la pierre principale, donc, on bâtit les autres pierres. Donc, on s'appuie sur la pierre principale. Donc, si la pierre principale est mal posée, en ce moment-là, l'édifice aussi sera mal fait. C'est ça. Donc, c'est à cela qu'on a mis ici, on a deux mises en garde. Quelqu'un prend Galates 1, verset 8. Dans la deux mises en garde, le fondement sur lequel l'on doit bâtir. Et puis, la deuxième mise en garde, c'est la façon dont on bâtit qui représente notre service. Donc, la façon dont on va bâtir sur ce fondement-là, il est important. Et puis, le fondement sur lequel l'on bâtit. Galates 1, verset 8. C'est ça. Donc déjà, s'il y a un autre évangile, comme le frère disait, s'il y a un autre enseignement, s'il y a une autre fondation qui vient, contraire à ce qui existe, contraire à l'enseignement des apôtres, il dit, mais anathème, donc maudit. Donc ça y est, le fondement est très important. Et puis aujourd'hui, on a tellement d'enseignements, on a tellement de docteurs de la loi, on a tellement de prophètes, on a tellement d'enseignants, mais on doit pouvoir scruter ces enseignements-là, on doit pouvoir les scruter à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du fondement, à la lumière de l'enseignement des apôtres. Or, l'enseignement des apôtres se trouve dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on a comme Bible. Donc ça, c'est la première mise en garde, c'est-à-dire le fondement sur lequel l'on bâtit. Donc l'enseignement sur lequel on s'appuie, c'est-à-dire ce qu'on va proclamer. Est-ce que ce fondement-là, c'est ce qu'on a reçu? Donc ça, c'est la première remarque qu'on va chercher à voir. Et le deuxième élément, c'est la façon dont on bâtit, la façon dont on bâtit sur ce fondement-là. Ici, j'ai mis qui représente notre service, c'est-à-dire la façon dont on va servir aussi. C'est aussi important. Est-ce qu'on sert pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on sert pour un gain sordide? Est-ce qu'on sert pour honorer le Seigneur? Est-ce qu'on sert pour, on sert pour se servir? Donc, la façon dont on sert aussi est un élément important pour bâtir effectivement sur cet édifice-là. Donc, on a deux éléments très importants, c'est-à-dire le fondement qui doit être solide, donc l'enseignement sur lequel on s'appuie, et puis deuxièmement, la façon dont nous-mêmes on se met à servir. Donc, en tant qu'église comme édifice de Dieu. Bien, église comme édifice de Dieu aussi revient à peu près un peu à ce qu'on a dit sur, par rapport au corps de Christ aussi. OK? Donc, église comme édifice de Dieu, on voit que chaque pierre a son rôle. Chaque pierre est importante. Chaque pierre a son rôle, chaque pierre est importante. Et on a parlé aussi de l'église comme colonne et appui de la vérité. Donc ça, c'est le rôle de l'Église aussi, c'est de veiller sur la parole qui est enseignée. C'est de veiller sur l'enseignement qui est donné. Ça aussi, c'est le rôle de l'Église locale. Donc, quand un individu se met devant pour, je ne dirais pas un individu, mais quand une pierre, comme on est dans l'édifice, quand une pierre vivante va se mettre devant pour donner un enseignement, il est important que cet enseignement-là soit fondé sur la parole de Dieu. Si ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu en tant que frère, en tant qu'ami, on peut corriger cela. On peut approcher la personne pour lui dire, mais tiens, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui ne marche pas. Puis en ce moment, on corrige tout ça là pour le corps de Christ, pour l'édifice du moins de Dieu. Donc, église comme maison de Dieu. Amen. Église comme maison de Dieu fait référence aussi à la famille. N'est-ce pas? Donc, nous sommes une famille. Amen. La sixième image, c'est l'Église épouse de l'agneau. Église épouse de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7, qui dit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, l'épouse de l'agneau ici, c'est l'Église, n'est-ce pas? Et quand on lit Éphésiens 5, 22 à 33, on voit que ici, la référence est faite en tenant compte de la vie, je dirais, conjugale. C'est-à-dire, mari, femme, mari, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. On voit Christ qui purifie l'Église, qui purifie l'Église, qui sanctifie l'Église, qui aime l'Église. Donc l'Église est considérée comme l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ. Donc il s'est donné à la croix pour elle et Christ aime l'Église. C'est pour cela qu'il prend soin de son Église pour la rendre sainte et irrépréhensible. Comment? Mais en aimant l'Église, en la purifiant, en la sanctifiant par la parole. Donc, on va voir que Christ va mettre ces éléments-là pour prendre soin de son Église, pour qu'elle soit effectivement présente ce jour-là,
des noces-là, qu'elles soient préparées aux noces. Et notre septième image, c'est l'Église troupeau de Dieu. Quand moi je vois l'Église troupeau de Dieu, généralement je ne cherche pas loin, je vais dans le psaume 23. Hein? Parce que c'est un psaume qu'on aime, un psaume qu'on connaît. Et Christ est le berger de ce troupeau-là. Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 14 dit ceci. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc ici, il se considère comme le berger. Donc il prend soin de ses brebis que nous sommes. Il trouve pour nous de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Le berger risque sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger. Amen. Christ est le bon berger. Et lorsqu'on lit le psaume 100, je vais le lire. Le psaume 100 nous dit ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc ce qui montre effectivement que l'Église, troupeau de Dieu, Christ, le bon berger, prend soin de son Église. Donc puisque Christ prend soin de son Église, il va chercher de verts pâturages pour son Église. Il va chercher des endroits où les brebis peuvent s'abreuver sans risque. Il va nous mener lui-même dans des lieux paisibles. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur le berger. Et quand David devait combattre Goliath, on dit le jeune David arrive et le roi, d'abord tout le monde s'oppose, le roi vient et dit « mais c'est pas possible, tu es trop jeune peut-être ». Mais David, pour convaincre le roi, il dit, mais moi, dans les champs, avec le troupeau que j'avais, je les défendais contre les ours. Donc, c'est-à-dire, il mettait sa vie en danger pour les brebis qui étaient sous sa responsabilité. Donc, le bon berger met sa vie en danger pour nous. Donc, l'Église est le troupeau de Dieu. Et nous sommes le troupeau de Dieu. On peut faire confiance à Dieu. Amen. On peut lui faire confiance. Même quand c'est difficile, on peut lui faire confiance. Parce qu'il prendra soin de nous. Il nous conduira dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. L'Église, celle de la terre. Église, celle de la terre. Matthieu 5, 13 et 1 Pierre 2, 11 à 12. On va lire les deux. Vous êtes le sel de la terre. Alors si le sel perd sa valeur, ou sa saveur, excusez-moi, comment est-ce qu'on peut la restaurer? Comment comprenons-nous effectivement ce passage qu'on vient de lire, s'il vous plaît? Quelle est votre compréhension de ce passage-là? Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, on a un témoignage qui ternit l'image de Christ en nous en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On doit être un modèle. On a l'Église sel de la terre, c'est-à-dire on a le rôle de conservateur. Généralement, ceux qui ont lu un peu sur les pharaons, on disait pour les conserver, pour les momifier, pas seulement sur les pharaons, généralement pour conserver soit de la viande, de la nourriture. Des fois, c'est le sel que nos mamans vont prendre pour badigeonner. Hein? Et puis, ça permet de conserver. Donc, on voit effectivement, on a le rôle de conservation. Mais on conserve non seulement la vérité de la parole, il y a la conservation de la vérité de la parole. Et c'est cette vérité-là qui doit effectivement donner de la saveur au monde, à la terre. Tout à fait. Le verset qui suit dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, si, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et quand je lis ce verset, la dernière partie m'édifie toujours. On dit au jour où il les visitera. C'est-à-dire, on a, ça donne l'espérance que même ceux qui nous calomnient, parce que on est différents, même ceux qui vont nous torpiller parce qu'on est différents, mais le jour que Dieu les visite, ils se rendent compte que vous avez raison. Ils se rendent compte que la vérité est dans votre camp. Donc, ça donne de l'espoir de voir autour de nous qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont contre ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, mais ça nous donne l'espoir de prier pour eux. Ça nous donne l'espoir de leur présenter l'Évangile, parce qu'on sait qu'un jour, Dieu est capable de les visiter afin qu'ils changent. Amen. Et l'Église, donc, le chrétien doit être un modèle en parole, en conduite, en foi, en pureté, en justice, en amour, en bonne œuvre. L'Église doit éviter de se compromettre avec les offres du monde pour ne pas perdre sa saveur. Se compromettre avec les offres du monde, je l'ai mis parce que la nouvelle tendance, on a l'impression que l'Église doit s'adapter au monde. L'Église doit marcher dans le même sens que le monde, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. L'Église, on a des valeurs. Et nos valeurs sont dans la parole de Dieu. Et c'est selon ça qu'on marche et non selon ce que le monde va nous proposer. Aujourd'hui, on a l'homosexualité qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui viennent, qui nous font croire effectivement que toutes les, je dirais, pas religion, mais Dieu en nous est dans tous les hommes. Hein? Aujourd'hui, on nous fait croire, on a parlé de la justice sociale la dernière fois de façon abondante. On nous fait croire que c'est les bonnes œuvres qui vont nous sauver. Mais ce n'est pas ce que l'Église est en train de nous dire. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc l'Église ne marche pas selon l'évolution du monde. On a au niveau légal, au niveau des gouvernements, des lois qui changent, ça et là, des dispositions qui sont prises, qui vont même contre la parole de Dieu. Mais on ne va pas approuver forcément, on ne va pas approuver cela. Amen. Et je pense que le dernier point, c'est l'Église lumière du monde. Comme on l'a lu, la suite du verset 13, quelqu'un peut lire Matthieu 5, 14, s'il vous plaît? Là, qui parle de ce que nous sommes, la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde.
C'est ça, nous sommes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, c'est-à-dire l'Église, on ne peut pas se cacher et ne doit pas se cacher. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que ça veut dire. On ne doit pas se cacher. Ça. Et puis, ce qui est intéressant, quand on est identifié comme chrétien, les autres nous surveillent. Hein? Parce que dès que tu fais un faux pas, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien. Donc, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, ils connaissent la valeur du chrétien. Ils connaissent la valeur. Donc, ils attendent au tournant pour te rappeler, mais que tu es chrétien, un chrétien ne fait pas ça. Donc, du coup, toi-même, ça te rend mal à l'aise. Et puis, en ce moment-là, tu mets ta vie en règle aussi. Ça, c'est de un, il faut être capable de pouvoir mentionner. Et puis, ça participe de notre témoignage aussi. Hein. Ça participe de notre témoignage. Donc ça, c'est important, effectivement, si on peut prendre l'habitude de nous identifier comme chrétiens partout où on est, pour que l'on sache. Ça, c'est bon. Et puis, le bon côté aussi de ça, c'est que des gens vous observent. Ils vous observent et quand ils, des fois, tu leur parles du Seigneur, ils vont s'en foutre, plus ou moins. Et puis, quand ils passent par des moments difficiles, ils vont venir te voir, mais est-ce que tu peux prier pour moi? Comprenez? Donc, ça veut dire que, dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a un travail que Dieu fait dans le cœur des gens. Donc, que le Seigneur nous donne la force d'être vraiment des modèles et puis de pouvoir revenir à lui. Une dernière intervention, oui? On va remettre la réponse de cette question à dimanche prochain, comme il est l'heure. C'est bon? On va remettre ça à dimanche prochain. OK? Et puis, on va conclure. C'est bon? Donc, l'Église, lumière du monde, l'Église doit éclairer le monde par sa lumière. Nous sommes amenés à briller dans le monde par la parole de vérité, par la proclamation de l'Évangile et par notre conduite. Et en conclusion, en tant qu'Église locale et membre du peuple de Dieu, chacun a sa place dans le corps de Christ, temple du Saint-Esprit, marchons dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu qui s'est acquis à un grand prix. Nous sommes son chant, comme un édifice bien coordonné, pierre vivante, marchons dans l'unité. Celle de la terre, ne perdons pas notre saveur et lumière du monde, brillons pour éclairer ce monde par la parole de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, époux de l'Église qu'il aime, purifie pour la gloire de Dieu. Amen.